aux premières lettres de chaque mot du pasouk, Ani Ledodi Vedodi Li. Ani Aleph Ledodi Vedodi Li. Je suis pour mon aimé et mon aimé est pour moi. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, un homme il a une possibilité d'être beaucoup plus proche d'Hachem que durant toute l'année. Comme ça c'est écrit dans les commentaires. Alors maintenant la question qu'on se pose, c'est quand on parle de proximité avec Hachem, est-ce que c'est une proximité qui vient parce que dans l'espace de Elul, dans le temps de Elul, il y a une proximité qui existe? Comme on sait que la Torah nous explique que chaque temps, il contient un certain parfum, et qu'en traversant le temps, on ressent quelque chose, on vit quelque chose qui est différent à chaque période. C'est-à-dire que les événements où la Torah, elle a marqué le calendrier, et ce calendrier, il contient l'événement. Quand on passe par Pessah, c'est un temps de libération, comme les Bnei Israël sont sortis d'Égypte à Pessah. Donc il y a une potentialité de libération à Pessah qui peut se renouveler chaque année pour chacun qui pourra se libérer et qui amènera aussi la libération finale, elle dit la Gemara, qui viendra avec le Mashiach à Pessah parce que le temps de Pessah contient la libération. Le temps de Kippour contient le pardon. Le fait même de passer par Kippour, ça pardonne les fautes. Parce que le temps, il contient le pardon. Comme quelqu'un qui passerait par une douche, donc de la veille jusqu'au lendemain soir, il pleut du pardon. Donc il est pardonné. Il dit maintenant, le mois de Elul, il contient une proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est un moment où on peut être plus proche d'Hachem, on peut mieux le ressentir, mieux le comprendre. Ou alors une autre version qui n'a rien à voir, il dit le Rav Dessler, peut-être qu'en vérité il n'y a rien dans ce mois de plus que dans les autres mois. Le mois, le temps lui-même, il contient rien. Mais le fait de savoir qu'à la fin du mois, c'est Rosh Hashanah, parce que le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. Donc le fait de savoir qu'on passe en jugement, alors peut-être que ça crée un conditionnement chez la personne qu'il y aura une proximité. Comme à l'examen, c'est connu que tous les étudiants ne font rien pendant 6 mois, c'est connu. Ils travaillent pendant les 3 derniers mois, les 2 derniers mois. Ils attendent la fin de l'année. Donc quand ils ont le sentiment de l'examen qui remonte, oui, comme disent les psychologues, le l'Arseb, ça s'appelle. Oui. Donc quand ils sentent que ça revient... Maintenant, est-ce que ça revient parce que c'est le moment de l'examen qui arrive, ou est-ce que ça revient parce que d'un seul coup, ils prennent conscience qu'il y a un problème? Ça change rien pour nous. C'est le fait qu'ils sont en face d'une échéance qui les pousse à réfléchir. Alors il dit Rav Dessler, peut-être que le fait de savoir qu'on va être jugé à Rosh Hashanah, ça fait qu'au mois d'Elul, on commence à réfléchir. Ou non, c'est quelque chose qui est inclus à l'intérieur du temps. Alors venons, on va essayer de comprendre. À quoi elle peut correspondre cette notion de proximité qui va exister soit parce qu'elle est inclue dans le temps, soit parce que quelqu'un il sait qu'il se rapproche du mois d'Elul. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre un Rav Dessler qui est très très important, qu'il faut vraiment avoir fait avant de mourir, c'est très important pour ceux qui veulent mourir. Donc c'est marqué, c'est ce qu'on appelle le passage de Mabat à Emet. Mabat à Emet, c'est quoi? C'est la vision de la vérité. Là-bas, le Rav Dessler, il va expliquer qu'une personne... Comment est-ce qu'une personne va avoir une perception de la vérité dans ce monde? Alors le principe, il est comme ça. Vous savez qu'un homme, pour réfléchir, il a 2 éléments principaux. Il a un élément qui s'appelle la force d'analyse. D'accord? Il a un ordinateur à l'intérieur de sa tête qui analyse, un gros computer comme ça, qui est capable de faire des millions et des millions de calculs. Et d'un autre côté, il a ce qu'on appelle la hit-aninut. C'est-à-dire qu'il a l'intérêt qu'il a pour les choses. Maintenant, le cerveau, lui, il n'a pas d'intérêt. La force d'intérêt elle-même, elle n'a pas de réflexion. Mais c'est la force d'intérêt qui va orienter la force de réflexion. Par exemple, toutes les lois du marketing, on sait très bien comment orienter l'intérêt de quelqu'un, et même sa réflexion, oui, selon des centres, par exemple. C'est connu dans les supermarchés que les produits qui sont à la hauteur des yeux sont plus chers que ceux qui sont plus bas. Parce que le type, il n'a pas envie de se baisser. D'accord? C'est connu que les gens beaux, on a toujours l'impression qu'ils sont plus vrais que les gens faux. Qui sont en moche, c'est comme ça. Un beau vendeur, il inspire plus confiance. Mais ça n'a rien à voir, le beau et le vrai. C'est pas grave. D'accord? De la même manière, dans les journaux, on sait que les encarts en bas à droite, ils sont plus chers. Parce que la personne, quand elle va tourner la page, elle va mettre la main, elle va regarder, ça sera plus cher. Donc il y a un conditionnement à l'intérêt. Quand quelqu'un cherche quelque chose, quand quelqu'un veut quelque chose, automatiquement sa volonté, elle oriente sa réflexion. Au-delà de ce que lui, il a envie de réfléchir, en fait. Vous dites à quelqu'un, tiens, va me chercher des timbres dans ce champ. Maintenant, le champ, il est couvert de parapluies. C'est rare, un champ de blé couvert de parapluies. Alors, je lui dis, tu m'as trouvé les timbres? Il dit non. Je lui dis, mais t'as pris un parapluie, au moins? Il dit, quel parapluie? Il n'a pas vu de parapluie. Il cherchait des timbres. Ça veut dire que la réflexion, elle est orientée en fonction de l'intérêt. Donc si quelqu'un ne maîtrise pas son intérêt, il ne maîtrise pas sa réflexion. Maintenant, il peut être extrêmement intelligent, très très intelligent, mais s'il ne maîtrise pas son intérêt, il peut être extrêmement idiot. Parce que son intérêt peut l'orienter. C'est comme si vous imaginez un sous-marin russe, par exemple, par hasard. Un truc immense, ça coûte des milliards. D'accord. Il y a je sais pas combien de milliards d'investissements, de recherches. Il y a plein de marins là-dedans, il y a plein d'ingénieurs et tout. Mais ils ont pris un chauffeur, un Hammer. Le conducteur, il est bête. Il est bête. Il prend une falaise. Alors tu vas voir le président, tu dis, mais monsieur le président, à quoi ça servait de mettre tous ces ingénieurs et ces milliards de dollars si le conducteur, c'est un idiot? Alors ça, c'est un truc extraordinaire. Dieu, il a donné à l'homme un cerveau d'une puissance abominable. Il faut savoir que le plus gros ordinateur aujourd'hui, le plus puissant, il est nul à côté du cerveau moyen. Et le cerveau moyen, vous voyez, vous l'utilisez à 1,5%. Presque rien. Donc le cerveau, il a une puissance extraordinaire. Et ce cerveau hyper puissant, il est entre les mains d'un fou. C'est qui? L'intérêt. L'intérêt, il est fou. L'intérêt, il est fou. Alors il dit, Rav Dessler, il y a différents types de questions qu'un homme il va se poser dans sa vie. Il y a ce qu'on appelle les questions du comment et les questions du pourquoi. Les questions du comment, c'est les questions techniques. Comment est-ce qu'on fait? D'accord? Alors à l'école, on lui dit comment on fait des multiplications. Après, on lui dit comment on résout des problèmes de maths. Après, on lui dit comment on résout des problèmes de physique. Après, à la fac, on lui dit comment on résout, un cosinus de trapèze. Ouais. Et puis après, au boulot, on lui dit, bon, comment on résout ce problème d'équilibre des comptes dans ta société? Pour le comment, on trouve toujours des solutions. Mais pour le pourquoi, c'est pas la même chose. Mais pourquoi tu t'es marié? Je sais pas. Mais pourquoi tu vis en France? Je sais pas. Pourquoi tu restes en Israël? Je sais pas. Mais pourquoi t'as eu des enfants? C'est la nature. Le pourquoi, il est beaucoup plus difficile à répondre que le comment. La technique, il n'y a pas de problème. Pareil, dans le comment, on peut s'arranger à deux, à trois. Bon, on va se mettre d'accord. Mais dans le pourquoi, on a chacun sa vision des choses. On n'a pas la même approche. Il dit, Rav Dessler, pourquoi c'est comme ça? Il dit, c'est incroyable. Il dit, il y a certaines questions où on se pose réellement la question dans le but de trouver la réponse. Mais il y a des questions où on a la réponse avant de finir de formuler la question. Par exemple, quelqu'un, il a envie de jouer au ballon Shabbat. Il a envie de jouer au ballon Shabbat. J'ai bien formulé la question. Il a envie de jouer au ballon Shabbat. Maintenant, lui, il a envie. Donc, il va regarder dans le Shulchan Aruch. Est-ce qu'on a le droit? D'accord? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a celui qui va te dire, le Shulchan Aruch ne parle pas de ballon. Pas de question, pas de réponse. D'accord? Il y a l'autre qui va dire, il parle de ballon, mais il permet. Il dit, c'est marqué où? Je sais pas, mais j'ai vu qu'il parlait de ballon. L'autre, il va dire, écoute, il parle de ballon, mais je suis en train de réfléchir, je suis en train de voir, je vais essayer de faire une déduction pour trouver si... Lui, il veut jouer au ballon. Donc, il peut pas trouver que c'est interdit, c'est impossible. Donc, il va trouver que c'est permis, ou il va rien voir. C'est-à-dire, on sait pas jusqu'à quel point est-ce que quelqu'un, quand il a une recherche, si il n'a pas une maîtrise totale de ses intérêts, jusqu'à quel point il est capable d'être aveuglé. Vous savez, on dit l'amour est aveugle. C'est connu cette blague, d'accord? Moi, je travaille beaucoup dans le service après-vente des couples. Et à chaque fois, je pose la question, je dis, mais madame, mais monsieur, mais vous saviez pas qu'il était comme ça avant le mariage? Il dit, je sais pas, j'ai rien vu. Rien. Tu es gentil, il était prudent, il était attentionné, propre sur lui. Et après le mariage, la deuxième face. D'accord? C'est rare que les gens ils nettoient le couvercle de la poubelle sur la face interne. D'accord? Donc, il dit alors pourquoi? Il dit, je sais pas, j'étais aveuglé. Vous étiez pas aveuglé, vous étiez amoureux. Comprenez ou non? C'est-à-dire que ça fait tellement plaisir de se faire plaisir qu'on n'a pas envie de casser ce plaisir. Alors on se fait plaisir. Tu dis, mais il faudra bien allumer la lumière un jour. Ben oui, mais en attendant, c'est toujours ça de prix. Sur la conscience. Il c'est pareil. Il dit, à partir du moment où quelqu'un n'a pas la maîtrise, encore une fois, même s'il a un cerveau d'une puissance extraordinaire, alors il y a plusieurs types d'aveuglement. Il peut avoir un aveuglement, on a dit amoureux, il peut avoir un aveuglement d'intérêt, il peut avoir un aveuglement même de l'œil lui-même. Une fois, je vous ai expliqué déjà, et ça c'est les scientifiques qui l'ont découvert, mais enfin on n'avait pas besoin d'eux, mais bon, à gaffe. Oui. Que l'œil, il a des logiciels de fabrication d'images qui sont indépendants du cerveau. Le cerveau lui-même, il a des logiciels de fabrication d'images qui est indépendant de la volonté. C'est-à-dire que quelqu'un peut fabriquer un monde complètement. Il peut être dans un monde. Il peut voir des choses. Quand on dit, un homme, il voit ce qu'il a envie de voir. Nous, on croit que ça veut dire que, bon, il arrive à s'auto-convaincre. Mais non! Il fabrique l'image. Vous, vous croyez, vous savez, on dit, je crois ce que je vois. Saint Thomas, ou là, je sais plus. Ouais. D'accord. Mais c'est idiot de se croire ce qu'on voit. Vous savez pourquoi? D'abord parce que quand on le voit, on n'a plus besoin d'y croire. Vous comprenez que c'est idiot? Il y a un rave. Il y a eu un moment en Israël, il y a eu une histoire. Vous savez, la Torah, elle dit que un enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, on lui apprend toute la Torah. Mais quand il va pour sortir, il y a un ange qui le tape ici, il oublie tout. D'accord? Alors tous les perplexes, tous les sceptiques, il y en a beaucoup, ils ont dit... D'accord? Bon, il y a quelques années en Israël, il y a une dizaine d'années, il y a un enfant, il est sorti du ventre de sa mère, dès qu'il a commencé à savoir parler, il connaissait toute la Torah entière. Qu'est-ce qu'ils vont faire les sceptiques? Et il y avait un très grand rave, qui était Mashgiach à l'Eshiva de Likoud. Il est en Israël, ils lui ont dit, écoute, va voir ça, c'est un phénomène. Il a dit, je veux pas aller le voir. Il a dit, je veux pas aller le voir. Mais c'était incroyable. Ils ont dû réunir des gens, ils ont fait des prières pour qu'il oublie. Il a oublié. Mais il répondait à toutes les questions. C'est-à-dire que les questions que peut-être j'aborderai jamais, il les avait déjà répondues. Vous avez compris? Il connaissait toute la Torah entière. Un enfant de 3 ans, tu lui dis, bon, le tikkun de Rabbi Akiva Iger dans Chulin Nav Koufret avec la couchée du... Il te répond. Incroyable. Il connaissait tout. Ce rave-là, il a dit, je veux pas aller voir ça. Il dit, pourquoi? Pourquoi tu veux pas voir? C'est ce qu'il a répondu. Il a répondu une vérité extraordinaire. Il a dit, j'ai envie de croire à ça. J'ai pas envie de le voir. Parce que si je le vois, j'y croirai plus. Et nous, on a inversé le problème. Nous, on dit, moi, ce que je voudrais, moi, si je voyais la vérité, moi, tout de suite, je fais la Torah. Mais t'as pas compris, mon frère. Tout le challenge, il est de ne pas voir. Parce que quand tu vas voir, ça prouvera plus rien. Je veux dire une chose pire. Les choses les plus importantes dans la vie, elles se voient pas. Par exemple, un homme et une femme, ils s'aiment, d'accord? Ils s'adorent. Ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre. C'est pas des choses qui se voient. C'est pas écrit sur un mur, c'est pas un compte en banque que tu peux vérifier. Il y a rien. Tu dis, mais il y a rien. Il y a que des efforts et que du sacrifice et des efforts. Et... Mais il y a rien, tu vois rien. C'est transparent. La valeur de quelqu'un, ça se voit pas. Eh ben Dieu non plus, il se voit pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que voir, c'est une vision externe des choses. C'est superficiel. Les choses essentielles, pour rester essentielles, il faut qu'elles restent dans les sens. Mais si tu leur donnes une nature extérieure, elles sont petites, par exemple. On n'a pas le droit de donner une image à Dieu. D'accord? Pas le droit. Parce que que tu le veuilles ou non, même si tu dis bon, c'est juste une représentativité, c'est juste une symbolique, c'est juste une image. Mais à la fin, ça te fait rigoler. Vous comprenez ou non? Tu rentres, tu vois le type, il est là accroché comme ça. Tu le regardes, tu dis, bon, la première fois, tu dis, c'est le fils. C'est le fils, oui, oui. À la deuxième fois, tu dis, pourquoi il reste là-haut? Il n'a qu'à descendre. À la troisième fois, tu dis, je comprends, il est monté pour faire la lumière, il n'est jamais redescendu. Changeur d'ampoule. Pourquoi tu veux donner une image à Dieu? Laisse tomber! Une image, c'est une taille. Une taille, c'est une définition. Une définition, c'est une limite. Pourquoi tu veux donner une image? Justement, le challenge, c'est de croire. C'est pas de voir. C'est pas de savoir. Laisse tomber. T'as pas besoin de savoir, t'as pas besoin de voir. Il faut croire. Donc, les plus grandes choses, on les voit pas. Et il faut y croire. Et tu verras une chose. Que plus quelqu'un, il est idéaliste, plus il fait des grandes choses. Pourtant, être idéaliste, c'est croire en des choses que tu ne vois pas. Et les gens qui sont réalistes, ils restent des pauvres types toute leur vie. Parce qu'ils disent, ouais, mais, oh, c'est impossible, faut être réaliste. Eh ben, reste. Faut être réaliste. Ben ouais, tu vois, en tenant compte de la réalité. Mais on s'intéresse pas à la réalité, nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet, c'est l'ambition. Mais ça se voit pas, ça. Alors, hein, alors. Eh ben, il y a des gens qui croient dans ce qui se voit pas, et il y a des gens qui n'y croient pas. Et ils restent. Bah. Donc, de toute façon, dans la vie, toutes les grandes choses, c'est les choses auxquelles on croit. C'est incroyable. Il dit maintenant, si c'est comme ça, alors c'est marqué dans la Torah, l'otikar shochad, tu ne prendras pas de pot de vin, d'accord? Prévarication, on dit en français, mais je ne veux pas vous choquer. Donc, l'otikar shochad, tu ne prendras pas de pot de vin. Car le pot de vin aveugle les yeux des sages. C'est un interdit de la Torah. Un juge n'a pas le droit de recevoir un pot de vin. D'accord? Nous, on aurait pu croire. Bon, écoutez, en toute amitié, monsieur le juge, une petite enveloppe. Pour qu'il y ait une bonne ambiance dans le tribunal. L'angoisse. Pourquoi l'angoisse? Voilà une enveloppe. Votre siège, il est pas moelleux. Voilà un coussin. Non, assourd. Pas le droit de donner de l'argent au juge. Pourquoi? Parce que le shochad, le pot de vin, aveugle les yeux des sages. La Gemara, elle dit, kol sheken aine tipshim, à plus forte raison, les yeux des imbéciles. Si, déjà. Mais quand même, la Gemara, donc, tu votes, dafkouf, et elle pose la question. Elle dit, ma haïta ama de shahada. Quelle est la raison du shochad? Pourquoi c'est interdit, shochad? D'accord? Vous vous dites, je comprends pas, mais c'est évident. Évident que tu peux pas donner un cadeau au juge. Maïta ama de shochada. Quelle est la raison? Pourquoi c'est interdit? Regardez Rashi ce qu'il dit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de donner de l'argent au juge pour qu'il dise la vérité? Vous me suivez ou non? Si je vais chez un juge, je lui dis, écoute, si je suis innocent, c'est un cadeau pour toi. Si je suis coupable, tu dis que je suis innocent. Je donne 10 000 francs comme ça, en liquide. Ça, je peux dire, mais c'est grave ce que vous faites. Vous avez détourné le jugement. Mais non, je vais chez un juge. Je dis, monsieur le juge, combien vous gagnez? Il dit, écoutez, je gagne 18 000 francs. Je ne suis pas titulaire encore, je gagne 18 000 francs. Je dis, écoutez, monsieur le juge, moi, je vous donne 30 000. Mais je vous donne 30 000 pour que dans mon jugement, vous soyez concentré, vous soyez objectif, vous soyez vrai. Je vous paye pour ça. Elle demande la Gemara, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? T'as compris ou non? Si je te paye pour mentir, c'est assourd. Mais si je te paye pour la vérité, dis merci, non? Pourquoi pas? Tu dis non. Parce que le juge, quand il reçoit un cadeau, il est influencé. Tu dis, mais c'est pas grave, influencé dans le bon sens. Pourquoi on n'influence pas, nous? Les enfants, on leur donne des bonbons. Les femmes, on leur achète des voitures. Donc, bon. Non, c'est rien, c'est juste pour faire monter l'adrénaline. Donc, la Gemara répond, Kevan de Kabil Shochad Amine, puisqu'il a reçu le cadeau de lui, il révélait d'arté, son esprit s'est rapproché de lui, ve avec égouffé, c'est comme son propre corps, ve en Adam Roe Choval Yatsmo, un homme ne se voit pas de défaut à lui-même. Alors, venez, on va commencer la phrase à l'envers. C'est marqué, en Adam Roe Choval Yatsmo, un homme ne se voit pas de défaut. D'accord? En général, quand on se regarde dans la glace, on se trouve beau. On comprend pas pourquoi les autres nous trouvent moches, mais on se trouve beau, nous, personnellement. On est des poètes incompris, ce qu'on appelle. Des poètes. Ouais. D'accord? Mais dis-moi, je suis extraordinaire. Si les gens, ils voyaient ma valeur, s'ils savaient qui je suis, ils comprennent pas. Ils me comparent avec des gens, Einstein, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais moi, pour moi. Ils voient pas de défaut. C'est pareil. Nous, pour scanner les autres, on est très fort. Je vais t'expliquer ce qu'il a fait lui, et qui c'est lui, et d'où il sort lui. Mais pour nous, Vous voulez coincer quelqu'un? Vous lui dites, parle-moi de toi. Qui? Je ne connais pas. Ils sont... Ah, pour les autres, ils sont bavards. Hein. Ouh, oh là là. Ils ont, sur chaque genre, chaque, ils ont un dossier. On dit, je vais t'expliquer. Mais tu l'as vu une fois? Oui, mais tu sais, moi, je suis, j'anticipe, je comprends, j'analyse. Oh là là, j'anticipe sur le problème. Tu me parles-moi de toi? Ah non, Quand tu fais une erreur, bah écoute, il fait le monde entier. Le monde entier, c'est à cause du monde entier. Puis après, c'est peut-être à cause de lui, peut-être. C'est pas sûr. C'est pas de sa faute. Il a eu des parents difficiles, il a eu une enfance lourde, il a pas eu d'argent, puis il a pas été aidé, Tout le monde entier! Et lui, bah tu dis, non, bah moi, écoute, je suis une victime. En fait, je suis une victime. En Adam roé chovale atzmo, un homme ne voit pas de défaut lui-même. Pourquoi? Parce qu'un homme, il est proche de lui-même. S'il y a une personne dont tu es proche, le plus, c'est toi. C'est marqué. Il dit le Ramban, pourquoi c'est écrit dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même? D'accord? Oui. Pourquoi c'est marqué Ve'avta le're'acha, tu aimeras pour ton prochain? C'est pas marqué tu aimeras ton prochain. Il dit le Ramban, parce qu'un homme, il s'aimera toujours plus que l'autre. Lui-même, il s'aimera. Si on avait dit Ve'avta et, d'accord? Ça veut dire que c'est direct. Le être, ça introduit le complément d'objet direct. Mais un homme, il peut pas aimer l'autre comme lui-même. C'est pas possible. Il peut aimer pour l'autre. C'est ce qu'il veut apporter à l'autre. Il peut dire comme pour moi. Mais l'autre lui-même, non, il s'aime plus. Quand il tombe les deux du bateau, il commence à sauver l'autre ou sauver lui. Il pense à lui. Donc, Adam, Karov et Tselatmo, un homme est proche de lui-même. Donc pourquoi est-ce qu'un homme ne se voit pas de défaut? Parce qu'un homme, il s'aime. Il est proche de lui-même. Or nous, on sait qu'on n'a pas le droit de juger un karov. Un juge ne peut pas être juge ou témoin pour son père ou pour son fils. Il peut pas, parce qu'il est proche. D'accord? Maintenant, si déjà pour un proche, tu ne peux pas être juge, à plus forte raison pour toi-même, tu ne peux pas être juge. Parce que tu es encore plus proche que ton proche. Ce qu'il dit la Gemara. Ve avec égouffé, c'est comme son propre corps. C'est-à-dire quoi? À partir du moment où je reçois un cadeau de quelqu'un, lui et moi, on est une seule personne. Avec égouffé. Il crève les d'arté, ton esprit est proche de lui. Ce qu'elle dit la Gemara. Mais ça veut dire quoi ça? Vous savez que le principe en soi, dans l'absolu, il est vrai. Maintenant, il est utilisé à bon escient ou au contraire. Quand quelqu'un veut se rapprocher de l'autre, il est obligé de s'investir pour lui. Pour faire un avec l'autre, il faut s'investir. Maintenant, quand moi je prends quelque chose de chez moi et je te le donne à toi, d'accord? Toi, tu te sens proche de moi parce que moi, j'ai existé pour toi. Et pourquoi moi je me sens proche de toi? Vous savez pourquoi? Parce que à travers le cadeau que je t'ai donné, moi, je me retrouve en toi. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, j'ai pris de moi, je l'ai mis en toi. Donc, ce que j'ai mis en toi de moi, c'est moi. Ça s'appelle le don de soi en français. Le don de soi, c'est double tranchant. Le don de soi, c'est le sacrifice d'être capable de dire, bah, tu sais quoi, moi je suis prêt à exister pour toi. Ça s'appelle l'amour, Razak. Je me donne pour toi. D'accord? Mais le don de soi, c'est aussi le don de soi. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu sais ce que j'aime en toi? C'est moi. Et je t'adore, vraiment, je t'adore. Parce que, il faut se rendre compte à quel point un homme, il s'aime, mais c'est abominable. Par exemple. Vous parlez de quelque chose à quelqu'un. Ça peut l'intéresser, ça peut être intéressant comme sujet. D'accord? Mais si vous lui parlez de lui, en termes élogieux, mais ça devient le sujet le plus intéressant du monde. Vous savez, le plus grand fantasme de l'homme, c'est quoi? C'est d'écouter son oraison funèbre. Il y en a, ils sont prêts à mourir pour ça. Comprenez ou non? Ils voudraient être là, quand ils seront morts, pour écouter qu'est-ce qu'on va dire. Il paraît qu'il y en a un qui a fait ça une fois. Il a fait semblant qu'il était mort. ils ont mis un sac de sable dans le truc, et lui s'est mis dans le public, il a écouté, avec un masque. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire, c'est le top du kiff. On parle de toi, et tout le monde va mentir que t'es un mec bien. C'est rare, un type à une oraison funèbre, qui va commencer à dire, mais. Tant que le type est vivant, faut jamais dire un compliment. Parce que si vous dites un compliment sur quelqu'un, l'autre il va dire, oui mais, c'est fini, c'est mort. Mais là il est mort, alors l'autre il n'ose pas dire mais. Alors il dit oui. Vous avez compris? C'est qu'un homme, il s'adore. Alors quand on lui parle de lui, quand on lui parle de son nom, quand on lui parle de ce qu'il fait, de ce qui l'intéresse, c'est bon. Mais il faut faire un effort abominable pour s'intéresser à la vie de l'autre. D'accord? Parce que Adam, Karovet, c'est l'asmo. Un homme, il est proche de lui. Maintenant, quand moi, je veux me rapprocher de quelqu'un, il y a une seule loi possible. C'est s'investir pour l'autre. Mais quand tu t'investis pour l'autre, attention, c'est pour l'autre ou c'est pour toi? Si tu donnes à l'autre, ça s'appelle chesed. Si tu achètes l'autre, c'est l'inverse. Mais c'est exactement la même manière. La technique, c'est la même. C'est que tu t'investis, toi, chez l'autre. Maintenant, où tu vas dire, maintenant, j'existe pour l'autre, où tu vas dire, eh ben, l'autre, il me contient à moi maintenant. Comprenez ou non? Ben, moi, mais je t'ai offert ça, moi. Moi, je t'ai acheté ça, moi. Donc, c'est une histoire connue, oui. Il y a Haïm, il rencontre David. Il a de la poussière ici, David. Alors, Haïm, il lui enlève la poussière. Il lui enlève la poussière comme ça. Il lui dit, t'as pas 10 francs? Alors, l'autre, il dit, tu peux remettre la poussière, s'il te plaît? Parce que l'autre, il lui a fait une tova, il lui a enlevé la poussière. Alors maintenant, il peut lui demander 10 francs. L'autre, il dit, écoute, laisse-moi la poussière. Et je garde mes 10 francs. Vous compris? C'est toujours un jeu, c'est un jeu. Je te donne, tu me donnes. Je te rends service, tu me rends service. D'accord? C'est que c'est le type, à la limite, le type qui est parano, quand l'autre, il l'appelle pour lui demander un service, il doit se demander, qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce que je vais lui demander? Ça va arriver. L'agmara, elle dit, il te dit bonjour le matin, il t'emprunte l'argent le soir. Tu vois le mal partout. Non, mais dans le sens inverse aussi, c'est comme ça. Dans le bien, c'est comme ça. Tu veux construire quelque chose, faut s'investir. Tu t'investis dans ta famille, tu t'investis dans ton entreprise, tu t'investis dans ton amitié. Tu construis, c'est comme ça. C'est de toute façon, pour construire, faut s'investir. Maintenant, tu t'investis pour construire, pour le lien, ou tu t'investis pour profiter. Après, c'est dans la tête. Mais ce qui est marqué ici, Kevan et Kibel Shochadamin, et à partir du moment où le juge il a reçu le pot de vin, il crève les d'arté, son esprit il est collé à l'autre. C'est fini. C'est une grève de cerveau. Ouf. Il voit plus. Il voit plus ce qui va pas. Parce que toi et lui, maintenant vous faites un. Imagine, deux siamois, vous savez, deux frères jumeaux, ils ont des sensations communes. D'accord? Maintenant deux frères siamois, ils ont des sensations hyper communes. Quand vous mettez une baffe à l'un, l'autre il sent, non? Maintenant, on peut s'imaginer que deux frères siamois qu'on aurait coupés, on les aurait séparés. Ils auraient quand même plus de sensations communes que des jumeaux. Vous me suivez? D'accord? Eh ben, imagine-toi, quand le juge, il reçoit le pot de vin, il devient ton frère siamois. Donc, ta douleur, c'est sa douleur. Et ton intérêt, c'est son intérêt. Mais il y a un deuxième plaignant. Il est mort. Mais il y a un type à côté. On est entre nous maintenant. Vous avez compris? Pourquoi? Qu'est-ce qui est marqué? Il dit le Midrash, Kevan shenoten adayan, libo ala shochad, naase iver bedin, ve'eno yachol ladun oto bemet. Il dit le Midrash Tanchuma, quand le juge il a reçu le cadeau, il devient aveugle dans le jugement, et il ne peut pas juger vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas marqué il ne veut pas. Il ne peut pas. On a débranché un morceau de son ordinateur. C'est quoi? Il a l'oreille du côté du plaignant qui n'a pas payé. Elle n'entend plus. Il n'entend rien. Il voit rien. C'est pas possible. Mais attendez, mais il a un cerveau quand même, non? En plus, c'est un sadique. On parle pas d'un ripou. On parle d'un juge sérieux. Mais il a reçu. Dès qu'il a reçu, il peut plus entendre. Ça veut dire qu'il dit le Maharal de Prague, il n'entend pas la deuxième version. Pire, et dans la version de lui, il n'entend pas tout ce qui va pas dans le sens de celui qui a donné l'argent. Il voit que pour le bien de celui-là. Mais parce que la Gemara, quand elle parle, la Torah, elle parle de hiver, ça veut dire un aveuglement complet. C'est-à-dire que la tête, elle est complètement déformée par un intérêt. Une petite pièce. C'est pire encore, la Gemara, elle dit Oler ou mit aver kol yamav. Le juge qui a reçu un pot de vin, plus il va et plus il devient aveugle. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué une fois que l'intelligence et la bêtise ne se mesurent pas au quotient intellectuel. Elles se mesurent à l'intérêt que la personne a. Si une personne a un gros intérêt, donc elle devient bête. Si une personne n'a pas d'intérêt ou a peu d'intérêt ou qu'elle contrôle son intérêt, donc elle est intelligente. Donc l'intelligence, c'est le contrôle de l'intérêt. Et la bêtise, c'est d'être sous le contrôle de ses intérêts. Maintenant, quelqu'un, il peut être très, très, très intelligent, mais avoir un intérêt petit, par exemple. Quelqu'un, il a une grosse tête, qui lui manque de kavod. D'un seul coup, il te voit noir. Tu lui dis, non, je suis un type très bien, mais je vous ai manqué de kavod. L'autre dit, non, t'es un pauvre type, t'es un nul, t'es un incapable. Un petit intérêt. Vous avez oublié de repasser une couche de vernis. C'est pas grave. Dis non. À partir du moment où quelqu'un qui reçoit un intérêt, il devient aveugle. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il devient aveugle? Ça veut dire qu'il devient de plus en plus aveugle. Alors nous, on comprend pas pourquoi il devient de plus en plus aveugle. Essayez de comprendre. Un juge, il a par exemple toutes les lois du Shulchan Aruch. On va dire 287 237 lois. D'accord? Il a triché sur une loi. Mais toutes les autres, elles sont bonnes. Comprenez ou non? Lui, il sait que dans cette loi-là, il a triché. Les autres, elles sont bonnes. Donc, il peut être un bon juge pour le reste des lois, même s'il a triché dans cette loi. Non. Pourquoi? Parce que Rabotai, Torah Tachem Temima, la Torah d'Hachem, elle est complète. Temima, elle est entière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute la Torah, elle est interactive à l'intérieur. Quand vous étudiez un domaine, ça touche un deuxième. Et le deuxième, il touche un troisième. Et le troisième, il touche un quatrième. Tous les domaines de la Torah sont liés les uns aux autres. D'accord? Donc, si le juge, il a triché sur cette loi, maintenant il a un problème dans la tête. C'est qu'il a 99% de la Torah vraie et une Torah fausse. Une! Maintenant il a deux solutions. Ou il fait teshuvah. Il regrette ce qu'il a fait. Il rend l'argent de celui qui a été spolié. Ouais, et il dit à tout le monde que l'alaha, elle était pas comme ça. Ou alors il fait pas teshuvah. Mais s'il fait pas teshuvah, maintenant, il a une erreur dans la tête. Vous savez ce qu'il va faire? Il va adapter tout le reste de sa Torah à son erreur. Donc il va tordre tout le reste. Comme quelqu'un qui ment, il est attrapé sur le fait. Il ment. Tu l'attrapes. Tac! Eh ben, il déforme. Il s'enfonce dans son mensonge. Vous savez, le mensonge, c'est conique. C'est-à-dire, c'est en cône. On a bien compris. D'accord? C'est-à-dire quoi? Plus tu mens, plus tu t'enfonces dans le mensonge. Mais tu te mens même à toi-même. La dernière étape du mensonge, c'est quoi? C'est de pas reconnaître que t'as menti. Donc tu te mens à toi-même. C'est la dernière étape, vous comprenez ou non? D'abord tu mens aux autres, après tu te mens à toi-même. Pourquoi? Parce que tu t'enfonces à l'intérieur. Tu t'enfonces. Il dit le juge, à partir du moment où il a reçu une fois un pot de vin, oui, son cerveau, il va se déformer, parce que dans sa tête, il a une contradiction. Ou il fait teshuvah et il s'arrange, ou alors il déforme toute la Torah. Il va déformer toute la Torah. Hein. Et il deviendra. Et la Gemara, elle dit, regardez ce qui est marqué. Afilu chacham gadol, même si c'est un grand sage, eno niftar mina olam blo samyutalev. Il ne quittera pas ce monde sans samyutalev, ça veut dire l'aveuglement du cœur. C'est la bêtise. Il va finir bête. Et vous remarquez ça tout de suite. L'élasticité d'esprit de quelqu'un, elle se mesure toujours au fait qu'il est désintéressé. Par contre, quand vous prenez quelqu'un d'intéressé, plus vous l'intéressez, plus il devient bête. Bête! Donc quand vous voyez quelqu'un d'idiot devant vous, vous calculez combien il a reçu d'intérêt pour être aussi bête. Est-ce que vous me suivez? Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est actif. C'est un effet actif. Un virus, il te mange la tête au fur et à mesure. Comme ce qui s'était passé en Arménie, là. Moi, j'avais entendu ça à la radio, j'étais tombé par terre. En Arménie, je sais pas, il y a 3-4 ans, il y a eu un tremblement de terre. Il y a la moitié d'une ville qui est tombée par terre. C'est rare. quand ils ont fait les examens, les techniciens, les ingénieurs, ils ont vu que les bâtiments, le ciment, le béton contenait une concentration de sable qui était trop forte par rapport au ciment. Donc ça veut dire que les ingénieurs, ils ont mis plus de sable parce que c'est moins cher. Donc, maintenant c'est pas les ingénieurs qui ont décidé, c'est les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, ils ont donné une enveloppe aux ingénieurs. Maintenant, un type, il fait un bâtiment de 20 étages où il y aura 2000 personnes qui vont habiter. Combien tu peux lui donner pour qu'il mette plus de sable? Alors que le type, il sait que si ça remue, il y a 2000 morts. D'accord? Alors, si déjà quand tu vois une horreur, tu tournes les yeux, il y a un accident d'autoroute, d'accord? Tu vois un type, il a traversé le pare-brise, il y a la tête qui est là-bas, il y a les jambes qui sont là-bas. Tu tournes les yeux. Tu vois pas des voyeurs qui ralentissent pour rien rater, d'accord? En général, tu tournes les yeux. Si tu veux voir de la viande, tu vas chez le boucher, qu'est-ce que t'as besoin de... Ouais. Normalement, on dit, j'ai détourné les yeux. Tu fais comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que tu peux pas voir ça. Mais un type qui sait qu'il a 2000 morts sur la tête, oui? Combien tu lui as donné pour qu'il détourne les yeux? Parce qu'il a bien détourné les yeux, celui-là. Il a fait 5 ans à l'école d'ingénieur. On lui a dit, en dessous d'une concentration de 30%, le bâtiment, c'est dangereux. Le type, il a mis 60% de sable. Il sait bien que c'est dangereux. C'est un château de sable qu'il a fait, lui. Vous avez compris? Comment il a fait pour dormir? Rabotaille, il a reçu de l'argent. Il a reçu de l'argent. D'accord? Mais c'est abominable. Parce que le prix qu'il faut payer, il est toujours, on a dit, relatif à ta conscience. C'est-à-dire, ce que j'ai payé, c'est ta conscience. Alors, je vous avais dit aussi, ça c'est intéressant, puisque Kol Ha'olam Mashalim, le monde entier, c'est des exemples. Donc, le monde physique, il a été créé pour qu'on comprenne le monde spirituel et le monde psychologique. Vous avez remarqué une chose. La taille de quelque chose, on peut le voir. La couleur de quelque chose, on peut voir. La forme de quelque chose, on peut voir. Mais le poids de quelque chose, ça se voit pas. Il faut le peser. Comment on fait pour peser quelque chose? On le met sur une balance. Et qu'est-ce qu'on met de l'autre côté? Un contrepoids. Le poids de quelqu'un, vous pouvez pas le savoir. Le poids de quelqu'un. Oui? C'est-à-dire sa dignité, vous pouvez pas la connaître. La seule manière de connaître la dignité de quelqu'un, c'est de mettre un contrepoids. Et Barabotai, au moment où la bascule, elle bascule. T'as le poids. T'as un caillou, tu sais pas combien il pèse. Tu mets 100 grammes, 200, 300, 1 kilo, 700. Hop! Tu sais combien il pèse? C'est pareil. Tu vas voir l'ingénieur. Tu lui dis, bon, vous allez mettre que du sable. Il dit, mais non! Mais ça va pas! 1 million! Oh, Dieu. Oh, c'est pas possible. 2 millions! Oh, c'est pas bien. 3 millions! C'est pas moi. Ça y est, il a basculé. Il t'a donné son poids. Il t'a donné son poids. Combien tu pèses? Voilà. 1 million, 2 millions, 3 millions. Il a vendu sa dignité. Ça veut dire que d'un côté la dignité, d'autre côté il y a les intérêts. Les intérêts contre la dignité, qu'est-ce que tu veux? Ou quelqu'un il garde sa dignité, ou quelqu'un il vend sa dignité. Le montant de la dignité, je vous fais l'équation. Montant de dignité égale intérêt. Mais tu peux vendre ta dignité, tu peux vendre ta conscience. Tu dis, mais t'es bête ou quoi? Tu vends ta conscience. Tu vends ton intelligence. Super grosse tête. Mais tu es un idiot. Complètement idiot. Complètement idiot. D'accord? Tu dis, bah écoutez, on va installer un réseau téléphonique de 800 km dans le village de Colamitré-la-Bourré. Colamitré-la-Bourré, c'est à 25 km de Dakar. Tu dis, mais monsieur, mais ils ont pas d'électricité? Ils ont pas de frigo, ils ont pas d'eau, mais on leur met le téléphone. Je dis, mais combien t'as reçu? C'est pas possible. T'as compris? C'est exactement pareil. C'est le poids du contrepoids. Il bascule. Il dit ça, c'est la force du shohad, que le shohad, il peut faire que la personne, elle perd conscience, elle perd le contact avec sa conscience, avec son intelligence, avec sa dignité, avec sa volonté, complètement dérivée du fait même qu'elle a été intéressée aux choses. Ah, la Gemara demande, Maïshura de Shohada, combien c'est la mesure du Shohad? Combien il faut donner? Alors nous, on dit, bah, ça dépend. Pour un juge, c'est 20 000. Pour un inspecteur des impôts, c'est 30 000. On connaît les tarifs. Non. L'agma a dit combien? L'agma a dit prouta. Qu'est-ce que c'est prouta? 20 centimes. 20 centimes. 20 centimes. Imagine. Toi, tu dois passer. D'accord? En correctionnel. T'as truandé l'URSSAF. 74 millions de francs lourds. Il y a ton juge qui est là. Il va te juger. Tu t'approches. Il a un grand bureau comme ça, acajou, noir. Tu prends une pièce jaune, relief. Tu la fais claquer comme ça, tu fais. C'est pour vous. Allez-y, le greffier va arriver. Mais le juge, il voit même pas 20 centimes. 20 centimes? Qu'est-ce que c'est d'accord? Une tache sur le bureau. C'est quoi ça, 20 centimes? Qui dit 20 centimes? Mais toi, tu te baisses pas, tu vois 20 centimes dans le caniveau, tu te baisses. Même dans la banquette de la voiture, un peu enfoncée, tu vas pas les chercher. 20 centimes? Attendez. Quand la Torah, elle te donne la mesure, c'est qu'elle te dit qu'à 20 centimes, un homme, il craque. Donc, il faut que tu t'imagines que le plus bidon de la terre, il craque pour 20 centimes. Mais la Torah, elle parle pour tout le monde. Faut que tu t'imagines que le plus grand, il craque pour 20 centimes. Tu vois, Moshe Rabbeinu, il craque pour 20 centimes. Yo, what? Aaron à Cohen, il craque pour 20 centimes. Rabbi Shimon Bar Yochai, il craque pour 20 centimes. Non, c'est marqué. 20 centimes. On comprend pas. Alors la Gemara là-bas, elle explique, elle donne des exemples. Elle dit par exemple, une fois, il y avait un rave qui devait se rendre en ville. Il fallait passer une rivière. Et avant, les ponts, c'était des ponts qui étaient un peu vite faits. Il y avait un tronc d'arbre avec une corde. C'était un pont. Donc c'était pas très confortable. Donc il y a ce rave là qui passe le pont, et quand il arrive au bout, il y a un type qui lui tend la main pour l'aider à sortir. C'est un peu compliqué. Il lui prend la main, il l'aide, il sort. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben voilà, je venais pour me faire juger en ville et je voulais vous prendre comme juge. Alors l'autre il dit, ben puisque tu m'as tendu la main, je peux plus te juger. Un autre exemple, la Gemara a dit, il y avait un rave, il était assis par terre, puis il avait un turban comme ça. Et il avait une plume sur la tête. Il y en a un, il a enlevé la plume. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je suis venu pour me faire juger. Je voulais vous demander d'être juge. Il dit, tu m'as enlevé la plume. Tu dis, ah, une plume. Alors, Tosfot, là-bas, sur place, il dit, c'est vrai que, d'après la Torah, c'est pas considéré comme un pot de vin. Mais, Midrabanan, ça veut dire, d'après les sages, ça peut être considéré comme un pot de vin. Et il voulait pas prendre du tout. D'accord? Mais un type à qui j'ai enlevé une plume, qu'est-ce que je lui ai enlevé? Qu'est-ce que je lui ai fait gagner? Je lui ai fait gagner ce que lui, il aurait été prêt à payer pour payer un type pour m'enlever une plume. T'as compris ou non? Combien tu veux pour m'enlever une plume? 5 balles, ça va? Oh, j'ai gagné 5 francs, parce que tu me l'as enlevé gratuitement. D'accord? Non. Je t'ai donné un kavod. Je t'ai fait un kavod. Je t'ai enlevé de la plume. Le kavod, ça se calcule comment? Ça se mesure comment? Elle raconte l'histoire, la Gemara, de Rabbi Ishmael ben Elisha, qui avait un métayer, donc un paysan qui travaillait son champ à lui, à Rabbi Ishmael, et tous les vendredis, il lui amenait un panier de fruits et de légumes qui poussaient pendant toute la semaine. Cette fois-là, Rabbi Ishmael, il voit arriver son métayer, au lieu de venir le vendredi, il vient le jeudi. Il lui amène un panier de fruits et de légumes qui ont poussé dans son jardin. Donc maintenant, vous rappelez, ces fruits appartiennent à Rabbi Ishmael, puisque c'est son jardin à lui, et pour payer le loyer, il le paye en fruits et en légumes, d'accord? Maintenant, au lieu de venir le vendredi, il est venu le jeudi. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, voilà, je suis venu pour vous amener les fruits que je devais vous amener le vendredi, je vous les ai amenés aujourd'hui. Et justement, j'ai un jugement, je me suis dit, ben, vous pourriez me juger. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Il dit, je peux pas te juger, parce que tu m'as amené les fruits. Et il lui a rendu le panier de fruits, attention. Il a appelé des autres juges qui ont jugé. Maintenant, la Gemara, elle raconte, après Rabbi Ishmael, il passait devant la fenêtre où il entendait son métayer qui était en train d'être jugé, enfin de passer en jugement. Et il a écouté les arguments du métayer. Et lui-même, il s'est surpris, attention, à aller dans le sens de l'intérêt de son métayer. Alors il a dit une chose incroyable. Il a dit, si déjà moi, que je n'ai pas reçu, j'ai rien reçu parce qu'il a rendu le panier. Et si j'avais reçu, c'était de moi que j'aurais reçu, c'était à lui. Et j'ai été influencé. Il dit, à plus forte raison, quelqu'un qui reçoit quelque chose qui ne lui appartient pas, que ça va lui faire de l'effet. D'accord? Maintenant, le Maharsha, les commentaires là-bas, il pose la question, il dit, je comprends pas, attends, il y a un malaise là. Rabbi Ishmael n'a pas accepté le pot de vin. D'accord? Si on dit que c'est un pot de vin, parce que c'était à lui, c'est pas un pot de vin. Comprenez ou non? Quand tu prêtes 5000 francs à quelqu'un, quand il te les rend, il te fait pas une tova. Bon, toi, c'est vrai que t'avais déjà désespéré, mais bon, maintenant il te les rend. Ça peut arriver, non? Donc quand il te les rend, c'est normal, non? C'est à toi. Alors l'autre, il dit, dis merci. Ben, c'est mon argent. Donc lui, on lui rend quelque chose qui est à lui. D'accord? Quand même, il refuse de le prendre. Maintenant, il dit le Maharsha. Maintenant qu'il a refusé de le prendre, il pouvait juger. D'accord? Ça veut dire, ou tu prends et tu juges pas, ou tu rends et tu juges. Lui, il n'a pas pris, il n'a pas jugé. D'accord? Et quand même, il était influencé. Mais qu'est-ce qu'il a reçu, Rabbi Ishmael? Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu une attention. Il a reçu qu'il y a quelqu'un qui a pensé à lui de dire, tiens, au lieu de lui amener vendredi, je vais lui amener jeudi. Bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo, donc c'est pas vraiment avantageux, mais bon, disons. D'accord? De fait que quelqu'un y pense à toi, ça s'appelle déjà un pot de vin. Est-ce que vous me suivez là? Il pense à moi. Ça veut dire quoi? J'existe pour lui, je compte pour lui. Si je compte pour lui, déjà j'ai subi une influence. C'est incroyable. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un il peut recevoir de l'argent, quelqu'un il peut recevoir un cadeau, ça veut dire le fait qu'on s'investit, quelqu'un il peut recevoir une attention, quelqu'un il peut recevoir du kavod. Il y a beaucoup de formes de cadeaux. Et toutes ces formes de cadeaux là, elles influencent la personne. Elle dit maintenant le cadeau le plus fin, c'est quoi? Il dit Rav Dessler, il y a quelqu'un, il est en train de faire un exercice de maths. Donc le professeur, il écrit un exercice de maths. Mais à la moitié de l'énoncé, il s'arrête le professeur. Il dit, bon, j'ai un besoin pressant, il sort. L'élève, il regarde la moitié de l'exercice. Donc, il a la moitié de l'énoncé. D'accord? Il regarde. Il se dit, moi, d'après la moitié de l'exercice, je pense que la réponse, elle est telle. D'accord? Il anticipe sur la réponse. À partir de la moitié de l'énoncé. Maintenant, il est d'accord de reconnaître que quand il aura l'autre moitié de l'énoncé, il est d'accord que de remettre en cause son résultat. Ce qui est avec la moitié. D'accord? Deuxièmement, il est d'accord de penser qu'il peut avoir faux. Parce qu'il a que la moitié. Ça va. Il dit Rav Dessler, le professeur, il vient, il donne le reste de l'énoncé. Et le type, il refait le calcul. Et ben, il dit, vous allez voir qu'il va se battre pour défendre son premier résultat. Pourquoi? Il dit, parce que l'intérêt le plus fin de tous, c'est quoi? L'intérêt le plus fin de tous, écoutez bien ça, c'est la désagréable impression d'avoir à se remettre en cause. Se remettre en cause, c'est pas facile. D'accord? Mais la désagréable impression d'avoir à se remettre en cause, c'est le pire. Alors quelqu'un, il n'a pas envie de se remettre en cause. Dis-moi, j'ai tort. Maintenant, là où c'est incroyable, parce que là, je vais vous donner un cas théorique, prenez un cas pratique. Vous parlez avec quelqu'un, d'accord? Donc vous lui exposez un cas. Maintenant lui, il connaît pas le cas parce que c'est vous qui l'exposez. Maintenant lui, pendant que vous exposez le cas, il réfléchit. Pendant qu'il réfléchit, il écoute pas. Donc il a pas toutes les données. Et pourtant il vous répond. Et il se bat avec vous pour défendre quoi? Son idée. Mais son idée, il l'a depuis quand? Depuis 2 minutes, 5 minutes. Et il est prêt à se battre pour défendre cette idée alors qu'elle n'a comme ancienneté chez lui, zéro. Et foncièrement, l'idée, elle est fausse, puisqu'il sait qu'il n'a pas toutes les données. Puisque pendant que tu énonçais les données, lui, il pensait. Donc pendant qu'il réfléchissait, il n'absorbait pas les données. Donc il a 90% de chance de dire une bêtise. Et quand même, il va se battre pour défendre son idée. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que les gens, en général, qui discutent, c'est des gens qui s'écoutent pas. Parce que s'ils s'écoutaient, ils verraient qu'à 99%, ils pensent la même chose. Donc ce qu'il faudrait, c'est seulement ajouter les 1% de nuance. Mais comme les gens ne s'écoutent pas, ils se bagarrent. Pourquoi ils se bagarrent? Parce que comme ils s'écoutent pas, ils savent pas ce que dit l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un truc extraordinaire. Quand quelqu'un dit à l'autre, je ne suis pas d'accord, mais c'est impossible qu'il soit d'accord puisqu'il sait pas ce que l'autre pense. Comprenez ou non? De toute façon, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec, toi. L'autre, il croit qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Il n'est pas d'accord avec la personne. C'est que la personne, elle dit, écoute, j'aime pas ta tronche. J'aime pas ta tronche. Tu me fais peur, j'ai pas confiance, je te sens pas. J'aime pas ton genre, j'aime pas les grands maigres et barbus, j'aime pas. D'accord? Maintenant, ce que tu racontes, ça peut être vrai, mais c'est inintéressant. Pourquoi? Parce que si t'as raison, j'ai tort. L'autre, il dit, mais attends, on peut avoir raison les deux, c'est pas grave. Non, c'est impossible. D'accord? Mais ça sort des trucs incroyables. Sûrement un jour, vous avez eu l'occasion de jouer le rôle de médiateur dans une discussion. D'accord? Il y a un truc extraordinaire. C'est très rare des gens qui sont totalement opposés dans une discussion. Parce que s'ils se parlent, c'est qu'ils ont un rapport l'un avec l'autre. S'ils ont un rapport avec l'un avec l'autre, c'est qu'ils se ressemblent. S'ils se ressemblent, c'est qu'ils disent la même chose. Mais ils s'entendent pas! Or, on a un principe. Les gens qui ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas. Et les gens qui ne s'écoutent pas, ne s'entendent pas. Ils s'entendent pas. Oui, tu dis, je peux pas l'entendre. On s'entend pas tous les deux. C'est normal, tu écoutes pas. Donc tu sais pas ce qu'il dit. Donc tu peux pas être d'accord. Mais pourquoi t'écoutes pas? Tu sais pourquoi? Parce que l'autre, quand il parle, il existe. Mais si lui, il existe, moi, ça veut dire que j'existe pas, alors! Donc, quand moi, j'existe pas, ça m'énerve! Alors, vite, je prépare une stratégie pour exister. Le dernier. Ils appellent ça le dernier mot. Genre, qui c'est qui parle le dernier? Attends, ils ont 35 ans. Ils ont 40 ans. Ils ont 50 ans. Ils veulent savoir qui est-ce qui va parler le dernier. Attends, moi, je me rappelle, on était à la maternelle, on tapait par terre et on voyait qui c'est qui tapait le plus fort. Mais on était à la maternelle! D'accord? On tapait par terre! J'ai jamais compris! Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu tapes par terre? T'es con, il y a une bosse, il veut enfoncer la bosse. C'est comme les gens qui font des pompes, ils poussent le par terre, qu'est-ce qu'ils font? D'accord? Tu sais pas? Ils tapent par terre! Bon, il dit, bon, c'est tes enfants, il a 4 ans, 5 ans, bon. Mais l'autre, il a pas 4 ans, 5 ans, il a 45 ans. Il a 45 ans. Tu commences à parler, il dit, je sais où tu vas en venir, je connais ton genre, je sais, tu sais. De toute façon, je connais, ouais, je sais pourquoi, je sais. Oh là là, mais laisse-moi parler. Ou alors, au contraire, il dit, bon, je te laisse parler. Toi, je t'avais dit. Je t'avais dit! Il parle tout seul. Il parle tout seul. Il y a des gens, tu mets deux magnétophones, c'est une discussion. Ça va, vous êtes content? J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais t'es venu pour communiquer. Dans le mot communiquer, il y a commun. Commun, ça veut dire qu'à la fin, on va avoir quelque chose en commun. Au moins une idée. Les gens, ils veulent pas communiquer. Ils disent, moi, je dis ce que j'ai à dire, moi. Ils appellent ça des gens francs. Francs. T'as vu l'état du franc? Moi, je suis franc. Moi, je dis ce que je pense, moi. J'ai jamais compris ça. Si c'est un truc intelligent, l'autre, il a compris. Si c'est idiot, garde-le pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Vous comprenez ou non? Vous dites un truc à quelqu'un. L'autre, vous pourriez répéter? Pourquoi il n'a pas entendu l'autre? Pour qu'il entende. Mais l'autre, il est intelligent. C'est pas la peine de répéter. C'est pour vous. Ah, vous n'avez pas compris? Je vais répéter pour vous. Il dit quelqu'un, à partir du moment où il s'habitue à absorber la moitié des données, donc il peut avoir tout faux. À l'école, il écoute à moitié. D'accord? Dans les conversations, il écoute à moitié. Dans son couple, il écoute à moitié. Ses enfants, ils écoutent à moitié. Il pige plus rien. Il pige plus rien. Alors comment il fait pour être tellement affirmatif? Justement, il tire toute son affirmation du fait qu'il écoute personne. Parce que ce qui est difficile, en réalité, c'est de coexister. C'est encore plus dur que d'exister. Et les gens, ils n'existent pas. Deuxième, ils existent. Bon, j'existe. Tu vois, au moins, moi, j'existe. Troisième, c'est les gens civilisés, ils coexistent, mais c'est très dur, parce que l'autre, il existe différemment de moi, donc c'est dur de coexister. Maintenant, il y en a, ils arrivent à coexister. Mais avant de coexister, il faut exister. Maintenant, si ton existence, elle m'embête, moi, je vais t'empêcher d'exister. Maintenant, je vais t'empêcher d'exister, je te laisse pas parler, je vais t'empêcher d'exister, je vais pas t'entendre. je vais t'empêcher d'exister, je vais même pas te voir. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui dit à l'autre, je peux pas te voir. Je sais pas si vous sentez le problème. Quand il y a une tache sur le canapé, vous dites, je veux pas la voir, vous enlevez la tache. L'autre, il dit, mais tu fais tache dans ma vie. Tu fais tache. C'est comment tu peux dire à quelqu'un, oh, mais on dit, moi je peux plus le voir. Ce type-là, je peux plus le voir. Je ne peux plus le voir. C'est bizarre, non? Comprenez, l'image, elle est bizarre. Le mot, il est fort. Comment tu peux pas le voir? Mais voir, tu peux voir. Même une poubelle. T'as pas dit de la manger, tu la regardes. Non. Je peux même pas le voir. La haine. Pourquoi? Parce que l'autre, en existant, il me prouve que j'existe pas. Ça m'énerve. D'accord? Alors, à plus forte raison qu'il va pas exister dans ma tête. Alors, je vais pas le laisser rentrer dans ma tête. Donc, j'écoute pas. Non, j'écoute pas. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Et c'est rigolo. Souvent, les gens déterminés sont des gens qui n'écoutent pas. Parce que celui qui écoute, il va être obligé de faire une balance. Oui ou non. Donc il est moins déterminé. À la fin, il sera déterminé parce qu'il aura fait un choix. Mais le type qui est déterminé parce qu'il n'écoute pas, mais tous les jours, vous en avez des comme ça. Ça s'appelle les anti-concertations. Ils peuvent pas se concerter parce que concerter, ils écrivent avec un N. Pas grave. D'accord? Donc, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a compris maintenant? On a compris que chez le juge, la Torah interdit de donner un cadeau, de recevoir un kavod trop fort, que ça influence la réflexion, que ça déforme complètement la réflexion, que ça peut l'amener à la grande bêtise. Il dit Rav Dessler, il dit, mais tout homme est juge. Tout homme est juge. À chaque fois dans sa vie, on a des choix à faire. Aujourd'hui, je dois faire ça, je dois faire ça. Je dois répondre comme ça, je dois répondre comme ça. Je dois me conduire comme ça, je dois conduire comme ça. On est tous juges. Donc, puisqu'on est tous juges, il faut qu'on calcule quelle est la part d'intérêt qui intervient dans notre réflexion pour savoir si réellement on a un lien avec la vérité. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un, il peut se mentir. Quelqu'un, il peut mentir. Quelqu'un, il peut se croire. Quelqu'un, il peut se la jouer. Quelqu'un, il peut jouer un rôle. Quelqu'un, il peut faire plaisir aux autres. Quelqu'un, il peut subir l'image qu'on lui impose. Quelqu'un, il peut transférer l'image qu'il a à la télé. Il y a tellement de façons de pas être soi-même. Tellement. D'accord? Et on a un gros intérêt à ne pas être soi-même. C'est quoi? C'est que c'est dur d'exister. Donc le Yetzara, il nous dit, bah, t'as qu'à disparaître. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une contradiction. La Torah, elle dit à l'homme, sois toi-même. La société, elle dit à l'homme, sois comme tout le monde. Comment il va faire? Vous comprenez ou non? On te donne une mode, on te donne un langage, on te donne des médias, on te dit sois comme tout le monde, ne te différencie pas, tu te mets à part, sois comme tout le monde. Les mêmes musiques, les mêmes chansons, les mêmes coupes de cheveux, les mêmes habits, les mêmes blagues, les mêmes lourdeurs, tout pareil. Tout. Pourquoi? Parce que la société, elle fabrique des stéréotypes. Non, c'est pas la société, elle est maîtrisée par une super grande trust qui s'appelle le Yetzer Hara. Maintenant, le Yetzer Hara, il veut pas que t'existes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique de la non-existence industrielle. On l'appelle la mode. D'accord? Maintenant, puisque toi, à l'intérieur, on te dit existe, et tu sens qu'il faut que tu existes. D'accord? Le monde entier, il te crie. Ouais? Tous les gens que tu aimes, ils te disent existe. Mais tout le reste du monde te dit n'existe pas. Et c'est confortable de pas exister. Tu vas t'inscrire dans une masse, tu vas faire partie d'un groupe ou d'un troupeau. T'es tranquille, t'es bien. Où t'es toi? Je suis là. On aime bien ça. D'accord? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'intérêt le plus fin, c'est le confort à la non-existence. On est bien. Pourquoi je vais me prendre la tête? Comprenez ou non? Moi, je comprends. Quelqu'un va dire, tu vas te mettre la barbe, tu vas mettre la kippa, tu vas mettre les tzitzit. Ouais. Les gens, comprenez? Le gars, il doit... Moi, je peux pas lui dire un gars, il va croire que c'est une insulte. Comprenez? Il dit, pourquoi vous êtes différent? Encore, le gars, il dit pas grand-chose. Lui, si vraiment tu es vrai dans ce que tu fais, en général, il te respecte. Parce qu'il sait qu'il y a... Il n'y a pas tellement non plus de grande valeur à être Nike ou Breitling ou Scott. Il n'y a pas tellement non plus de grande valeur. Donc s'il voit que tu es hassid, ça le dérange pas trop. Le goy. Le juif, lui, ça le dérange.
Lui, il te dit, mais pourquoi vous êtes différent? Vous avez trop. C'est comme tout le monde. Perdez-vous dans la masse. Mais tu dis, mais je suis pas une masse. Je suis un individu, je suis une personne. Je voudrais qu'on me regarde pour ce que je suis. Qui je suis? Alors, on va prôner l'individualité, les qualités personnelles, les valeurs, l'existence. On va dire, maintenant, tu vas te perdre. Tout le monde part en vacances. Tout le monde bouffe. Tout le monde voit le film. Tout le monde regarde la télé. Tout le monde rigole. Souriez. D'accord? Dis-moi, ça me fait pas rigoler. C'est pas possible. Regarde les critiques. Ce film-là, il fait marrer tout le monde. Dis, mais, je pas la télé.
Non.
C'est pas vrai. T'as pas la télé? T'es quoi, toi? T'es quoi? Anarchiste? Il dit, j'ai pas. Si je veux dire idiot, ça va venir naturellement, je vais pas me forcer. Tous les soirs, 3 heures. En formation de bêtises. Vous comprenez ou non? Les gens disent, j'ai arrêté les études. Mais tous les soirs devant la télé, tu fais pas des études? Comment devenir idiot? Avec assiduité. C'est ça la télé, non? C'est pas l'école de la bêtise, la télé? C'est pas l'école de la bêtise? Je vous donne 30 secondes pour me donner une émission fondamentale que vous avez vue l'année dernière. Fondamentale. Allez-y. Trop tard. Comment on peut passer 3 heures par jour devant un truc qu'on sait qu'il n'y a rien dedans? Moi, je sais pourquoi. Parce que les gens, ils ont la émouna dans la télé. Ils disent, un jour, elle va faire teshuva, il y aura quelque chose. Alors, ils veulent pas rater ça. Ils ont dit, ça va venir. Ils espèrent. Ils attendent. Tu vois la speakerine avec une perruque. Oh. Tu te rends compte? Ça serait beau quand même. Hein? Tu vois James Dean, tu dis, ah, la résurrection des morts. Ah, bataille, c'est pas possible. Un homme, il est juge. Toute sa vie, il a des décisions à prendre. D'accord? Les décisions, elles doivent être vraies. La seule moyen d'être vrai, c'est de contrôler ses intérêts. Est-ce qu'on est capable, nous, de contrôler nos intérêts? Est-ce qu'on connaît nos intérêts? Est-ce que vous comprenez? C'est que le type, tu lui dis, pourquoi tu t'es marié? Il dit, mais je sais pas, elle m'a pris en main, elle m'a truqué, j'étais mal, j'étais bien, j'étais truc, elle m'a chauffé. Pourquoi t'es avec des enfants? Je comprends, on était ensemble, ils sont nés. Pourquoi t'habites ici? Parce que je travaille pas loin. Pourquoi tu travailles ici? Parce que je fais ce métier. Pourquoi tu fais ce métier? Parce que j'ai fait ces études. Pourquoi t'as fait ces études? Parce qu'en sortant de la fac, il y a un mec qui m'a dit, écoute, je fais chimie. J'ai fait chimie. Pour faire plaisir à ma mère. Oh, t'es quoi? T'es une excroissance de ta mère? En bataille, on est bourré d'intérêts. On est rempli d'intérêts. Rempli d'intérêts. Yetzirara. Confort, petitesse, mesquinerie, lourdeur, fatigue, flemme. On est rempli d'intérêts. Comment quelqu'un peut être objectif? Est-ce que vous comprenez? On aime les gens qui nous aiment. On aime les gens qui nous respectent. On haït les gens qui nous empêchent d'exister. On n'aime pas la différence. On n'aime pas les gens différents. On n'aime pas ce qui bouge. On n'aime pas ce qui nous remet en cause. Mais peut-être qu'on est, comme ça, on est des espèces de grosses souris comme ça, Microsoft. Toutes sensitives, vous voyez. Imaginez une souris. Vous savez, il y a des écrans plats qui font souris. Imaginez une souris comme ça, sensitive, mais tout entière. Ça veut dire tout entier, vous êtes une souris sensitive. D'accord? Eh ben, vous réagissez complètement aux sensations. L'autre, il dit, oh, t'es un mec bien. Oh, je l'aime bien, lui. L'autre, il dit, oh, tu t'es planté. Oh, antisémite. On est complètement sensitif. Le vendeur, il me dit, vous savez, ça vous va bien. Hop, je l'achète. L'autre, il me dit, bon, je vous fais un prix, c'est bon. Vous avez compris ou non? On est complètement sensitif. Dis, mais où est le cerveau? Mais il faut voir, moi. Je sais pas tous les exemples qui existent, mais il faut se rendre compte que même comment l'histoire elle se fait, l'histoire du monde, autant que l'histoire individuelle, dans n'importe quoi, dans la politique ou dans la science, quand vous regardez la place de l'intérêt, mais c'est abominable, c'est abominable. On a pu faire reculer la science de 90 siècles rien que parce que le type, il voulait pas que ça soit un autre qui ait son nom sur la plaque. On a pu faire des abominations pendant des dizaines d'années simplement parce qu'il y avait un grand professeur qui était au départ. N'importe quoi. Ça veut dire que l'intérêt, il remplit le monde, d'accord? Alors comment quelqu'un il peut parler d'objectivité? Et comment quelqu'un il peut faire un choix? Puisque chaque choix va passer par la volonté. Et chaque volonté, elle est soumise à l'intérêt. Alors comment il fait pour réfléchir? Et ça, c'est une grande erreur. Les gens croient qu'ils vont développer l'intelligence. Et maintenant, plus ils sont intelligents, plus ils sont libres. La connaissance amène la liberté. Vous comprenez ou non? Mais c'est faux, il y a deux tiers-monde. Il y a des gens qui sont pas assez riches pour être vicieux, d'accord? Il y a des gens qui sont pas assez pauvres pour ne pas être vicieux. C'est les deux tiers-monde. Le tiers-monde des riches et le tiers-monde des pauvres. Mais les deux existent. Il y a 20% de la population qui consomme 80% des ressources de la Terre. Vous savez ça? D'accord? Mais les 20%, qu'est-ce qu'ils font avec tout ce fric? Mais des bêtises. Parce qu'ils s'ennuient. Or, dans le monde, il y a ou l'essentiel ou le superficiel. Mais dans l'essentiel, il remet en cause. Donc les gens, ils cherchent le superficiel. Mais la culture du superficiel, il faut l'encourager, il faut la cultiver. Comment est-ce qu'on fait pour faire durer le superficiel? Il y a un seul moyen. Les intérêts. Vous avez compris ou non? Il faut que je te trouve des intérêts pour cultiver ta culture du superficiel. Maintenant, nous, on vit dans une société de superficiel. Les vedettes, c'est des vedettes. Le héros, c'est des vedettes de cinéma. Ce qui est intéressant, c'est le nouveau film qui vient de sortir. Ce qui est important, c'est le prix de la lessive. On est complètement à côté. Complètement. Vous comprenez ou non? À part les cas graves, l'autre, il a un cancer, il se dit, oh, j'ai envie de vivre. À part quelqu'un, l'autre, il a traversé l'Atlantique. À part quelqu'un, il retrouve sa femme après un adultère. C'est rare de gens qui ont un contact avec l'essentiel. Les gens, ils nagent dans le superficiel. Mais comment est-ce qu'on peut absorber et vivre et cultiver le superficiel, sinon parce qu'il est entretenu? L'intérêt, c'est la culture du superficiel. Alors comment quelqu'un il retrouve l'essentiel? Il y a une seule manière. Il base l'intérêt. Ça veut dire que la maîtrise des intérêts, oui, c'est l'objectivité de quelqu'un. Les gens croient qu'on trouve la vérité parce qu'on cherche la vérité. Vous savez, les gens disent, moi j'ai cherché la vérité. Toute ma vie j'ai cherché la vérité. La vérité, on peut pas la chercher. Parce qu'elle est partout. Ah, tu dis, pourquoi les gens ils la cherchent? Pourquoi ils la cherchent les gens? Parce qu'ils n'ont pas lutté contre leurs intérêts. Parce que si quelqu'un il enlève ses intérêts, tout de suite il voit la vérité comme ça en pleine tranche. Vous savez, ils appellent ça midi à 14h. D'accord? Mais il y en a qui ont fait midi à 40 000 heures. Pourquoi ils n'ont pas vu la vérité qui était devant eux? À cause des intérêts. L'intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il lutte contre ses intérêts. Celui qui en lutte contre ses intérêts, il a une chance d'arriver à la vérité. Mais celui qui lutte pas contre ses intérêts, comme ça. Et si vous allez dire, oh mais c'est pas évident, déjà tu cultives tes intérêts. Regarde, écoute-toi parler, tu cultives déjà. Maintenant, là, tout de suite, à la seconde. Qu'est-ce qu'on a à faire? Regarde, on est mardi là, il est 10h10. Il y a toi et toi dans ta tête. Qu'est-ce qu'on a à faire? T'as qu'à dire oui. Déjà tu dis non. Ça commence à peine. Comprenez ou non? C'est que le début. C'est dire quoi? C'est quelqu'un, il doit se dire, j'ai compris maintenant, mais la vérité, elle est évidente, la vérité, elle est éclatante, la vérité. Les gens, ils se cassent la tête. Est-ce que la Torah est vraie? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il intervient dans le monde? Et pourquoi ça? Arrête. Mais c'est fatigant. C'est même pas rigolo. Vous comprenez ou non? Les gens, ils veulent être convaincus, ils veulent des preuves. Mais Rabotai, la vérité, elle est évidente. Tu veux une preuve? C'est que quand tu mets une bonne baffe à quelqu'un, il a mal. Tu lui mets une bonne baffe dans la tronche, il a mal. Il dit pas peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est clair et direct et qu'on va à l'essentiel, on n'a aucun doute.
C'est pour ça que souvent, une fois quelqu'un m'a dit, il m'a dit, oui, mais vous comprenez, souvent les gens qui ont fait tchouva, c'est les gens qui ont des problèmes, qui ont des angoisses. Mais c'est rare de trouver quelqu'un qui est bien, il fait tchouva. Je lui ai dit, mais comment un type qui est allongé sur la Côte d'Azur, au bord d'une piscine, avec un coca frais et une blonde Goya, comment il va faire teshuva celui-là? Comment il va faire? Est-ce que vous me suivez? Oui, il est comme ça avec son coca, tranquille, avec la Goya à côté. Christine, alors, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Ouais, la piscine, le beau ciel et tout. Maintenant, il va se dire, mais vous mettez des féminines! Il peut pas! Christine, elle va dire, oh, le Moïse, sois raisonnable. Ah, il dit, oh ouais, t'as raison. On verra dans un autre Gilgoul. Il sait pas, peut-être que dans un autre Gilgoul, il va mettre la téphiline. Parce que peut-être qu'il sera une lanière de téphiline dans le prochain Gilgoul. Parce qu'il sera revenu en bœuf. D'accord? Bah, au moins, il met la téphiline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il doit arriver à comprendre que, une fois, j'avais entendu d'un rave, il avait dit une chose incroyable. Il avait dit, tout ce qui est vital, Akadosh Baruch Hu le donne gratuitement. Par exemple, l'air, c'est vital. Vous payez pas pour l'air, pour l'instant. La lumière, on paye pas. La lumière du soleil. Tu sors dehors, il fait soleil. Y a pas un type qui vient, la taxe du soleil. L'eau, c'est pas très cher. Par rapport à ce que c'est. D'accord? 80% de ton corps, tu pourrais payer cher. Les diamants, c'est très cher. L'or, c'est cher. Pourquoi? C'est pas vital. Tout ce qui n'est pas vital, c'est cher. Tout ce qui est vital, c'est gratuit. D'accord? Alors, il a dit ce rave, un truc incroyable. Il a dit, mais la émouna, la croyance, c'est vital. D'accord? Donc, ça devrait être gratuit. Ça veut dire quoi? Ça devrait s'acquérir sans effort. Alors, pourquoi les gens, ils se cassent la tête? Bon, tu dis, j'étais à des dizaines de cours, j'ai fait 4 séminaires, j'ai lu tous les livres, j'ai fait un doctorat de théologie. Arrête. Pourquoi il fait un doctorat de théologie? Comme ça lui laisse encore 5 ans pour faire des bêtises. Et dans 5 ans, je suis sûr que je serai croyant. Pendant ce temps-là, tous les soirs, regarde la télé. T'as compris? C'est du bidon tout ça. Parce que la vérité, encore une fois, elle est évidente. La preuve, c'est qu'un type, dès qu'il a un problème, il voit la vérité. Donc s'il voit la vérité quand il a un problème, c'est qu'il a connu la vérité. Le même qui te dit, oh la religion, la religion, la religion. Hop, sa fille, elle a une leucémie. C'est le rabbin, faites-moi une bracha. Mais va voir le rabbin de la Salpêtrière. Qu'est-ce que tu viens chez nous? Faites-moi une beraka. Une quoi? Je dois allumer une veilleuse? Ah ouais, c'est vrai, t'es pas une lumière. Ça fait pitié. Je comprends pas. Hier, tu te moquais de la religion. Aujourd'hui, tu pleures. Rabotai, tout le monde sait que la Torah, c'est le Emet. Tout le monde sait. Mais il y a une couche. Il y a une couche d'intérêt comme ça. Comme ça. Une grosse couche. Petite couche. Ça dépend des gens. D'accord? Alors ça, si quelqu'un il veut trouver la vérité, il y a un seul moyen. C'est de lutter contre les intérêts. Ça veut dire que la recherche de la vérité, c'est inintéressant, parce que tout le monde a connu la vérité. Maintenant, ils font semblant de la chercher, ils la cherchent pas. Ouais? En vérité, si quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bilan, il prend sa feuille, il dit, allez, sur quoi je suis intéressé? Sur quoi? Pourquoi je fais pas ça? Pourquoi? Intérêt. Le regard des autres, d'accord. Pourquoi? Ah, je veux pas être différent, d'accord. Et ça, j'ai honte du goy, ça. Je veux pas, non. Si t'enlèves les intérêts, la vérité elle est comme ça. Elle est évidente. La preuve. Regardez-vous là, la preuve. C'est que quand tu veux savoir la vérité, tu vas voir quelqu'un qui est désintéressé. Donc tu sais que les gens intéressés sont faux. Donc pourquoi tu vas chez lui? Parce qu'il est désintéressé. Mais t'as qu'à la trouver tout seul. Parce que tu sais que t'es intéressé, toi. T'as compris ou non? Ça veut dire que quand tu vas poser la question à l'autre, c'est parce que tu sais que t'es plus intéressé que lui. Donc si déjà tu sais que t'es intéressé, je vous dis un truc incroyable. Des fois les gens ils posent des questions, d'accord? Moi qu'est-ce que je fais? Je synthétise la question et je leur renvoie la question. Ils trouvent la réponse. Parce que quand tu as dénué la question d'intérêt, ben, elle est évidente la réponse. Alors pourquoi il est venu te voir? C'est pourquoi? Il est venu te dire, aide-moi à dépasser mes intérêts. Vous avez compris ou non? J'arrive pas. Écoute, soi-disant, c'est une question intellectuelle du gros. Oui, il y a un aspect que je n'aurais pas. En vérité, il est évidente la réponse. Il la connaît très bien.
Ouais.
Mais il n'arrive pas à passer le cap. Il n'arrive pas. Alors il vient te dire, il dit, tu peux me pousser un peu? Alors tu lui dis, allez, vas-y. Et il dépasse ses intérêts. Ça veut dire, rabotaille. Tout le monde sait que la vérité est évidente. Tout le monde sait que c'est les intérêts qui bougent la réflexion. Tout le monde sait que c'est les intérêts qui détruisent la trois quarts de la vie de quelqu'un. Donc la recherche de la vérité, ça sera automatiquement, premièrement, déterminer où sont les intérêts. Deuxièmement, connaître leur taille. Troisièmement, même si on ne peut pas les détruire complètement, parce qu'on n'est pas tous des tzadikim, on peut les compartimenter. C'est-à-dire qu'on sait que dans ce domaine-là, il y a telle part d'intérêt. Alors on va arrêter de se mentir déjà. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on devient indépendant de ses intérêts. Maintenant, on va pas les nier. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un ne va pas dire demain, je vais être les Shem Shamaim. Sans blague. Vous comprenez ou non? Pourquoi tu... Faut pas rigoler, faut être sérieux. D'accord? C'est comme si demain tu veux être champion du monde d'haltérophilie. T'as pas l'idée, non? Tu vas dire, voilà, il y a 244 kilos, vas-y, et pour les jeter. Les pauvres, je sais pas, mais jeter, je sais que j'ai été. D'accord? C'est pas possible. Tu dis, mais non, mais il faut 15 ans! Alors si, déjà, pour soulever 244 kilos, il faut 15 ans! Alors pour soulever 230 tonnes de lourdeur, combien il faut d'années? Il va falloir de l'entraînement. C'est pas que des muscles qu'il faut. Vous comprenez ou non? Donc c'est pareil ici. Dit quelqu'un, à partir du moment où il va définir maintenant, quel est le danger? C'est les intérêts. Alors comment il va le regarder? Il va dire par exemple, moi, j'aime pas trop réfléchir, ça me prend la tête. Donc il a un intérêt prise de tête. Donc il faut qu'il s'habitue à se prendre la tête sans que ça le dérange. Jusqu'à ce que ça lui fasse plus rien. C'est-à-dire qu'il va être libre intellectuellement. Il va dire, moi, j'aime bien les gens qui vont dans mon sens, mais j'aime pas les gens qui vont pas dans mon sens. Donc il faut qu'il s'habitue à aller dans le sens des gens qui vont pas dans son sens. Pour qu'il soit libre dans sa tête. Par exemple, un exemple. Vous avez un conflit avec quelqu'un. Vous lui dites pas. Vous lui dites pas à lui. Mais vous, dans votre tête, vous argumentez son point de vue à lui. Vous me suivez ou non? C'est très dur. Hein. Vous dites, mais c'est vrai, il a raison ce mec-là, au fond. Il m'a fait un devis, je l'ai signé, et maintenant je veux pas payer. Il a raison. Ah, il a pas fait exactement tout ce que j'attendais. Mais moi, je suis malhonnête. Je devrais d'abord lui payer ce que je lui dois. Et après, on discute sur les dégâts. Mais je dois payer déjà. Pourquoi moi, je profite qu'il a fait un dégât pour rien payer? Je suis malhonnête. Nous, on pense pas comme ça, nous. Nous, on dit, moi, non, pas du tout. Moi, j'ai fait un devis. C'est vrai, je l'ai signé. Mais, sur les 130 mètres carrés de peinture, il y a une fissure, là, de 12 centimètres. Tu dis, attends, c'est les normes MF, ça. Ouais, tu dis, tu rigoles là, quoi. Pour une petite fissure, paye-moi le reste. Non. T'es pas aveuglé? Alors je te donne une clé. Si tu veux être libre intellectuellement, tu argumentes le point de vue du type qui te contredit. C'est très très dur. Et si vous allez me dire, j'y arrive pas, faut s'entraîner pour ça. Il y a la Guémara. La Guémara, c'est fait pour s'entraîner à argumenter le contraire de ce que tu penses. Parce que dans la Guémara, il y a toujours deux avis. Il y en a toujours un qui pense blanc, un qui pense noir. Donc quand tu penses blanc, la Torah, elle va argumenter noir. Et quand tu penses noir, la Torah, elle va argumenter blanc. Donc les deux sont argumentables. C'est que la vérité, c'est l'équilibre. D'accord? Dans la confrontation des deux argumentaires. Et le mensonge, c'est quoi? C'est la confrontation de deux points de vue qui ne sont pas argumentés. Donc, tu veux objectiver ta réflexion? C'est pareil. Tu te déplaces dans la vie. Quand tu vas avoir une impulsion quelconque, quand tu vas avoir un choix de vie, analyse tout de suite. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Tu vas faire. Ouais? Ce qu'ils disent les Chachamim. À chaque fois qu'un homme, il vit quelque chose, il doit regarder qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te regarder vivre. Tu vas mettre une caméra. Et maintenant, ils ont fondé toutes petites, des webcams, là, je sais pas. Tu la mets là. Tu te regardes vivre. Toi-même, tu te projettes.
Pourquoi je fais ça?
Par exemple, t'as le client qui vient, il te dit, bon, votre produit, je l'ai essayé, il me plaît pas, il m'intéresse pas, je l'ai usé, je l'ai sali, je l'ai pourri, je vous le rends. Et je le paye pas. D'accord? Toi, tu lui dis, oui, bien sûr, c'est normal. C'est la politique d'ouverture de notre entreprise. Il n'y a pas de problème. Oui. Tu rentres à la maison. Ton fils, il me fait une petite bêtise. Tu lui éclates la tête. Alors tu dis, mais quand même, après tu réfléchis, tu dis, mais quand même, mon fils, le pauvre, il est hnin. Il n'a rien fait de mal. Bon, il est arrivé un peu en retard, il est un peu bousculé, ça c'est vraiment. Il est fatigué, il rentre de l'école, il s'est levé à 6 heures. Je pourrais lui donner un peu de crédit, puis il a 8 ans. L'autre, il a 38 ans. L'autre, en pleine tronche, comme ça, il m'écrase en pleine tronche, il marche sur la figure. Avec le sourire. L'autre, il vient, il est tout honteux, tout ça, il me dit, papa, voilà, rien, j'ai une mauvaise note, et tout ça. Je lui éclate la tête. Je dis, je vais faire le contraire. L'autre, je vais lui donner toute la patience, tout l'amour, toute la tendresse. Et le client, je vais lui mettre en pleine tronche. Tu verras que la prochaine fois, il va t'amener le cash. Comme ça, tu le prends, tu le mets contre un truc. Vous voyez le serveur d'ordinateur, là? Vous et lui, la même tête dans 5 minutes. C'est bon? Oh là là, il connecte, direct. Tout de suite. Il n'y a pas de problème. Ah, il sait parler, celui-là. C'est la communication. Droit au but. Les points sur les zigotos. D'accord? Ça veut dire quoi, Rabotaï? Ça veut dire une chose simple. Le client, il m'amène que de l'argent. S'il me remet en cause, c'est sur 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs. Mon enfant, ouais, s'il me remet en cause, s'il me remet en cause, mon enfant, c'est sur mon droit d'exister. Vous comprenez ou non? Pourquoi? Parce que mon enfant, je le regarde comme moi petit. Donc, c'est comme si je disais l'enfant, c'est la vitrine. Il y a un grossiste. Il y a un grossiste, il a plein de robes. Et dans la vitrine, il met une robe. Donc, quand les gens ils voient la vitrine, ils voient ce qu'il y a dans le magasin. D'accord? Mais, alors lui, un homme, il croit que ses enfants, c'est sa vitrine. Alors, il a la chouma. D'accord? Mais t'es pas un peu fou, malade? Ton enfant, c'est pas ta vitrine. Ton enfant, c'est un enfant. Et Hachem, il t'a donné une neshama pour que tu l'aides à exister. Il va pas exister à ta place. Ouais. Il va pas faire ta fierté. Il va être lui-même. Donc, tu vas l'aider à exister. Donne-lui du temps. Et si tu dis, oui, mais il a fait une erreur. Écoute, toi, à 8 ans, t'as fait pire. Donc, dis merci. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais me projeter pour regarder qu'est-ce qui motive mes actes. C'est la part d'intérêt que j'ai dedans. Lui, il m'énerve. Oui, je l'écrase. Lui, il me déchire. Je dis rien. Je dois regarder la part d'intérêt. Si je fais cet exercice, dans l'étude, je cherche les mettre. C'est-à-dire, je lutte contre les intérêts. Dans la discussion, je cherche la vérité. Dans le conflictuel, j'argumente le point de vue de l'autre. Dans ma vie, je me projette à chaque instant pour savoir où est la vérité. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une lutte contre les intérêts. D'accord? Les intérêts, c'est la face toujours superficielle des choses, puisqu'on a dit que quand on enlève les intérêts, on voit l'essentiel. D'accord? Si quelqu'un, il retourne à l'essentiel, il est jamais loin d'Hachem. Parce qu'Hachem, c'est l'essence de l'essentiel. Et la Torah, c'est l'essentiel. Donc elle t'amène à Hachem. Maintenant, le Yetzer Hara et les intérêts, c'est le superficiel. Quand quelqu'un cherche l'essentiel, il se rapproche d'Hachem. Quelqu'un, il cherche la vérité, même une vérité intellectuelle, il se rapproche de l'essentiel. Quelqu'un, il cherche la vérité à l'intérieur de ses sentiments, il se rapproche d'Hachem. Quelqu'un, il cherche la vérité à l'intérieur de lui-même, même il fait une thérapie, il se rapproche d'Hachem, parce qu'il se rapproche de lui. Et à l'intérieur de lui, il y a Hachem, parce qu'il y a le corps, après il y a le nefesh, après il y a Hachem, il y a la neshama. Donc quand quelqu'un, il va à l'intérieur de lui, tout au bout, il y a Hachem. Quand quelqu'un, il va au bout de la nature, il y a Hachem. Le problème, c'est pour les gens qui restent au milieu, les gens qui restent trop dans leur corps ou trop dans la nature. Il faut dépasser la nature ou dépasser ton corps. Et à partir du moment où quelqu'un,
Il cherche l'essentiel à Botaï. Et on a dit que pour trouver l'essentiel, il faut lutter contre les intérêts. Quand quelqu'un cherche l'essentiel, il est à proximité d'Hachem. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai posé la question. Je vous ai dit, est-ce que le mois d'Eloul, c'est un mois de proximité parce que Hachem, il a fait que ce mois-là, il contient la proximité? Ou non? C'est parce qu'on sait qu'on va passer en jugement, alors on se rapproche d'Hachem. En bataille, il n'y a pas de différence. Vous pouvez couper, ça ne me dérange pas. D'accord? En vérité, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'Hachem, il a créé une période de proximité. Mais cette proximité, pourquoi elle existe? Parce que tu sais qu'au moment de Rosh Hashanah, on va juger l'essentiel. Rabota, il n'y a pas de baratin, Rosh Hashanah. Vous comprenez ou non? Tu vas passer devant Akadosh Baruch Hu. Donc comme tu vas passer devant Akadosh Baruch Hu, c'est fini les bêtises. Vous comprenez? Tu peux te la jouer avec un client, avec ta femme, avec tes voisins, avec tes amis. Mais devant Hachem, t'es seul devant Hachem. Hachem, il dit, bon alors, qu'est-ce que t'as fait cette année? On va dire, bon, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Hachem dit, je te donne ta chance, je te reçois. Tu sais, les gens, la queue qu'ils font pour venir chez moi. Maintenant, moi, je te reçois à la télé en face de moi. Quel est ton projet pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu proposes? Ça veut dire, quel est l'essentiel pour toi pour l'année prochaine? Mais comment tu vas trouver l'essentiel de Rosh Hashanah si pendant toute l'année, t'es plongé dans le superficiel? Alors Hachem, il t'a dit, je te donne un mois. T'as un mois, mon frère. T'as un mois pour chercher l'essentiel. Cette recherche de l'essentiel, c'est ça la proximité. C'est ça la proximité avec Hachem, Rabotai. La vérité, elle est juste derrière. Elle est juste là. Mais il y a une couche. Eh ben, t'as qu'à dépoussiérer. Des fois, c'est plus épais. Eh ben, mets des coups de marteau. Et cette proximité. Pourquoi je commence toujours l'année par ce cours? Parce que si toute l'année, on va aborder, mes Hachem, beaucoup de sujets, on va avoir beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'informations, il y aura même beaucoup de blagues. Il y aura aussi beaucoup de remises en cause. Mais le degré de pénétration d'une remise en cause, elle dépend du degré d'intérêt qui l'accueille. Mais dans ce cours-là, il faut l'absorber, il faut le digérer, il faut le connaître, il faut l'intégrer à 100%. Parce que sinon, toute la perception que vous aurez de la vie en général et du cours en particulier, elle sera toujours dénaturée par vos intérêts. Or, si déjà quelqu'un, il part de la rue, d'accord? Il part du milieu assimilé juif. Il part du milieu réformiste. Il part du milieu tchaloued. Il part du milieu pourri. Il part du milieu loin. Il se rapproche et rentre dans le traditionaliste. Après, il rentre dans la synagogue, le Shabbat. Il rentre un peu. Si déjà, il cherche la vérité. Alors, autant qu'il se donne les moyens. C'est trop idiot, vous comprenez ou non? C'est trop idiot qu'un type, il veut être chercheur de diamants et il n'a pas appris à expertiser les diamants. Et ce Hamor, ça fait 20 ans qu'il ramasse des cailloux dans le Michigan, là-bas. On dit, tu veux ramasser des diamants? Faut expertiser. T'arrives à l'école d'expertise, tu dis, mais comment on reconnaît des diamants? Comment on fait? C'est très simple, mon frère. Faut enlever la terre qu'il y a dessus. Enlève la terre qu'il y a sur les diamants. Tout ce qui va orienter votre vie, tout ce qui va orienter vos choix, tout ce qui va orienter vos plus grandes décisions, ça sera toujours ou la réflexion ou les intérêts. Maintenant, ou quelqu'un il est libre dans ses intérêts, et donc il est libre dans sa réflexion, ou quelqu'un il est soumis à ses intérêts, et à ce moment-là, il n'est pas libre dans sa réflexion. C'est exactement le principe de recherche de la vérité qui doit encourager et orienter tout le mois d'Eloul pour arriver à Rosh Hashanah en étant vraiment émet, et pour pouvoir présenter un projet à Kadosh Baruch Hu qui soit émet. Parce que sinon, ça sera du folklore, ouais, ça sera de la bouffe, et après toute l'année, ça sera du folklore et de la bouffe. Parce que c'est déterminé à Rosh Hashanah. Mais si quelqu'un il veut se donner une vraie chance de dire cette année, elle sera pas comme l'année dernière, d'accord? Il faut qu'il se donne les moyens, et pour ça, il faut qu'il puisse être libre de ses intérêts. D'accord.